Mondial Sport. Martin Guez.
Mondial Sport prenait place pour dire au revoir à un grand homme du sport sénégalais. Lamine Diack s'en est allé à 88 ans ce vendredi à Dakar. Un grand athlète, un grand dirigeant du sport mondial. Avant sa chute et ses démêlés avec la justice, Mondial Sport revient sur la carrière de Monsieur Diack. Cap ensuite sur le Qatar où se déroule la Coupe d'Afrique, la Coupe arabe, répétition générale de la prochaine Coupe du Monde, à laquelle assiste Hugo Moissonnier. Tour des stades ensuite en Europe, la France avec Lens PSG, l'Espagne et ce duel royal, Real, l'Italie, le carton de l'Inter à Rome et enfin du taekwondo avec le retour triomphal de Ruth Bagby à Abidjan, l'entrée en lice des Françaises au Mondial de Hand. Allez, c'est parti, Jean-Philippe Thury fait chauffer les manettes.
Moi, je suis arrivé, il n'y avait rien. L'amateurisme pur et dur. Mon rôle, c'était de changer l'athlétisme. Et nous l'avons fait. Les femmes ne couraient pas plus de 3000 mètres. Elles courent le marathon, elles courent le 3000 mètres steeple, elles lancent le marteau, elles sautent à la perche, elles ne sautaient pas à la perche. J'ai tout révolutionné. Je suis absolument relax. Je suis pressé de dire, bon, monsieur, allez, maintenant je m'appelle Monsieur Diack. Je m'en vais.
Monsieur Diack s'en est allé à 88 ans chez lui à Dakar au Sénégal. Il faudrait plusieurs heures, plusieurs livres, plusieurs films pour raconter la vie de Lamine Diack, successivement champion de France de saut en longueur, entraîneur de football, maire de Dakar et surtout président de la Fédération internationale d'athlétisme pendant 16 ans, rien que ça, de 1999 à 2015. Et avant cela, il avait pris la tête de la Confédération africaine de la discipline, premier président de l'instance en 1974. Aujourd'hui, c'est le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum qui occupe le poste et ce depuis 2003. Il est le premier à lui rendre hommage dans Mondial Sport.
Je reconnais son grand héritage qu'il laisse pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Parce que, après tout, pendant les 16 ans que Lamine Diack a passé à la tête de l'Association internationale de fédération d'athlétisme, l'athlétisme avait véritablement conquis bon nombre de fans et l'athlétisme était devenu un grand spectacle. Donc, c'est un apport important qu'il faut reconnaître à Lamine Diack.
Un apport important au sport en général, à l'Afrique, au Sénégal en particulier. C'est aussi l'avis de Bernard Amsalem, président de la Fédération française, quasiment aux mêmes dates que le mandat mondial de Lamine Diack. Pas du tout étonné que son pays ait gardé un si bon souvenir de l'homme.
Ça me paraît totalement naturel, d'autant que les faits sont là, hein, en tant que sportif de haut niveau, spécialiste du saut en longueur, ensuite responsable de l'équipe du Sénégal de football. Bon, donc il a marqué l'histoire du Sénégal sur le plan du sport, on ne peut pas dire le contraire. C'était une première à l'époque d'avoir un de leurs résidents, un Sénégalais, qui arrive au plus haut niveau du sport mondial. C'est ce qu'on gardera effectivement comme souvenir de Lamine Diack pour le Sénégal.
Lamine Diack, éternel Dakarois, né à Dakar, mort à Dakar. C'est donc tout naturellement que Mondial Sport se dirige désormais vers la capitale sénégalaise, ville dont il fut le maire à la fin des années 70. Ses obsèques ont eu lieu hier en présence de l'ensemble du monde du sport sénégalais, lui qui a pratiqué le saut en longueur, mais aussi le football, le handball et le volley. Des obsèques auxquels ont assisté Babacar Fall et son micro en toute discrétion et en toute dignité.
À la cérémonie de levée du corps, une foule de sportifs, d'hommes politiques, d'anonymes, venus rendre un dernier hommage à Lamine Diack. Lui, c'est Henri Camara, l'ancien international de football, qui a débuté sa carrière au Diaraf de Dakar, le club de football le plus titré du Sénégal, dont Lamine Diack est l'un des membres fondateurs. Amadou Diop Boybandi, l'un des tout premiers capitaines du club.
C'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, parce qu'à 17 ans, il a forcé à me faire jouer en équipe première. Je lui dois beaucoup.
Les sportifs, comme s'il s'était passé le mot, sont tous reconnaissants à l'endroit de Lamine Diack. Amadou Diaba, le seul médaillé olympique sénégalais, médaille d'argent aux 400 mètres et au JO de Séoul en 1988.
Il a beaucoup contribué à ma réussite sportive. Et parce qu'au niveau africain, avant que j'aille aux Jeux olympiques, j'étais déjà titré 5 fois. Mais lui, il m'a toujours aider à conquérir une médaille olympique.
Amimba Ketcham, championne du monde de 400 mètres en 2001.
Quand elle me remettait les médailles, c'est lui-même qui a préféré me remettre la médaille. Et je me souviens dans la salle d'attente avant d'aller sur le podium, il a murmuré à mon oreille, « Est-ce que tu sais qu'Ami, tu as empoché 60 000 $ ?» J'ai dit, « Ah bon, président ?» Il me dit, « Oui. » C'était une innovation grâce à sa vision et à sa contribution pour l'athlétisme mondial.
Tous orphelins, papa Massata Diack, le fils de Lamine Diack, d'une voix étreinte par l'émotion, raconte les derniers instants de la vie de son père, qui n'est rentré à Dakar qu'en mai dernier, après près de 6 ans passés en France, où la justice avait confisqué son passeport.
Depuis cette épreuve de 5 ans, 7 mois qu'il a vécu, il est devenu très religieux. Il nous parlait tout le temps du Coran, il nous parlait des valeurs à avoir. Il nous a transmis tout ce qu'il savait. Donc ça, il ne nous doit rien. Il a tout fait pour nous. Donc, c'est un jour spécial.
Papa Massata Diack, condamné en même temps que son père dans le procès de l'affaire du dopage des athlètes russes, une mascarade selon beaucoup de Sénégalais.
Tout ça, ce n'était que pur montage. Mais pour qui connaît M. Lamine Diack, doit savoir que lui, il ne se mêle pas des affaires de corruption ou de excès, vraiment.
Une opinion sénégalaise qui, donc, dans sa majorité, estime que Lamine Diack est plutôt victime que coupable dans cette affaire. C'est un héros, clame-t-il, une icône qu'il faut immortaliser.
C'est sûr et certain qu'une avenue ou bien un monument portera son nom. Moi, je pense même au stade olympique, le stade qu'on va inaugurer bientôt. Est-ce que ce stade ne portera pas le nom de Lamine Diack? En tout cas, je le suggère.
Babacar Fall, Dakar, RFI.
Des rues, des monuments au nom de Lamine Diack, peut-être au Sénégal, sans doute pas ailleurs. Lumineux, l'homme a été un sportif et un dirigeant charismatique, mais côté ombre, il a terminé sa vie empêtré dans les affaires, condamné à 4 ans de prison. L'ex-patron de l'athlétisme mondial aurait pu finir sa vie en France, mais il avait réglé sa caution de 500 000 euros à la justice française en mai dernier pour pouvoir rentrer chez lui dans l'attente de son procès, après 5 ans passés dans l'Hexagone. Lamine Diack, Marc Ventouillac le connaît bien, journaliste au quotidien L'Équipe, il a suivi toute la carrière du Sénégalais.
Malheureusement pour Lamine Diack, si au Sénégal, en Afrique, je pense qu'on gardera toujours une bonne image. Malheureusement, je pense que celle-ci est ternie pour le reste du monde sportif par les affaires, hein, par le scandale de corruption dans lequel il a été impliqué. Malheureusement, effectivement, c'est ce qu'on retiendra surtout de lui et ça effacera beaucoup de choses avant. D'autant plus, et ça c'est aussi une réalité qu'on a du mal à essayer de trouver ce qu'il faut retenir de son mandat. Je suis l'athlétisme depuis beaucoup d'années, et puis hier, quand il est mort, au moment d'essayer de faire son bilan, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qui reste de Lamine Diack, président de la Fédération internationale d'athlétisme? Et je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai passé quelques coups de fil. Bon, effectivement, l'image de Lamine Diack en tant que président restera, malgré la durée, celle d'un président de transition.
Une image ternie, assombrie par ces scandales de corruption que personne n'avait vu venir, et pas même Marc Ventouillac.
Difficilement compréhensible, quand il a été mis en examen en novembre 2015, voilà, tout le monde a été surpris. On savait qu'il y avait un problème de corruption entre la Fédération internationale d'athlétisme et le président de la Fédération russe, pour ne pas dire la Russie en général, et des athlètes russes, mais on ne pensait pas à la base que Lamine Diack serait touché. Concrètement, pour essayer d'expliquer ça clairement, il y a eu un accord de passé entre le président de l'I2AF, Lamine Diack, et le président de la Fédération russe, qui était également son trésorier, Valentin Balakhnichev. Alors, le but du jeu, c'était on va ralentir des procédures touchant des athlètes russes pour leur permettre, entre autres, de courir à certaines compétitions en échange d'argent. Diack, qui a touché de l'argent, son fils, Papa Massata, a également été condamné. La justice, en première instance, est passée et Diack lui-même avait reconnu les faits.
Des faits et des méfaits qui auront marqué la vie de Lamine Diack, qui s'est éteint hier à Dakar. Adieu Dakar, bonjour le Qatar. Le pays accueille en ce moment la Coupe arabe. Répétition générale à un an de la Coupe du Monde. Des chants comme vous l'entendez, mais ça ne déchante pas sur le terrain. Le pays hôte est qualifié pour les quarts. Le Qatar, en quart mais en coulisses. Cette Coupe est surtout l'occasion de tester ses stades. Des enceintes clinquantes qui ont fait parler d'elles et des nombreux ouvriers disparus en les bâtissant. Voyage déroutant en terre peu connue. Suivez le guide, il s'appelle Hugo Moissonnier.
Une longue route, presque neuve, en plein désert. Soudain, une immense tente de bédouins brille dans la nuit. Il s'agit du spectaculaire stade Al Bayt. Son architecture rend hommage au peuple nomade.
Look at it, it's amazing.
Johnny, travailleur anglais qui vit au Qatar.
Il est magique. Ces deux dernières années, je passais régulièrement devant en voiture. Ce soir, je voulais être là pour le voir, ressentir l'atmosphère. C'est magique, c'est un privilège.
Le Chants, danses, hologrammes, feux d'artifice, rien n'est trop beau pour une première, celle d'une enceinte qui accueillera aussi l'ouverture du Mondial l'année prochaine. Quelques heures plus tôt, la Mauritanie de Didier Gomes da Rosa a joué contre la Tunisie dans un autre stade, celui d'Al Rayyan.
Carrément exceptionnel hein, en termes de pelouse déjà, le vestiaire est incroyable. Vraiment, chapeau. Ça donne beaucoup d'enthousiasme hein, quand on voit des beaux stades comme ça. De tout cœur, j'espère qu'il y aura de grosses affluences, qu'il soit plein.
Et le lendemain, nous sommes invités à visiter l'enceinte de Lusail, au nord de Doha. Une cerise sur le gâteau en cours de livraison, le stade qui abritera la finale de la Coupe du Monde. Les tribunes, très proches de la pelouse, sont impressionnantes. Le Qatar en met plein la vue, mais sans faire n'importe quoi. Le discours officiel insiste sur ce point. Ainsi, l'enceinte de Lusail ne deviendra pas un éléphant blanc, promet le chef des opérations sur place, Tamim El Abed.
Concernant les autres stades, l'un d'entre eux sera complètement démonté, mais il y aura celui de la sélection, tandis que 5 enceintes seront également utilisées par des clubs du pays. En ce qui concerne le stade de Lusail, il est évident qu'il est trop grand pour le pays. On étudie donc la possibilité de revoir l'utilisation du bâtiment après le Mondial, en faire un lieu d'habitation ou une école.
Au-delà des tribunes, c'est tout de même une nouvelle ville, Lusail, qu'on est en train de construire. Les tours et les immeubles poussent dans le désert. Il faut le voir pour le croire. Les grues, les camions, les engins sont partout. Sur la façade du stade, les photos de ceux qui ont travaillé à sa construction sont affichées. Un hommage, certes, mais aussi un renvoi à l'envers du décor, alors que le Qatar est encore la cible de critiques virulentes sur les conditions de travail et de vie de ses ouvriers. The Guardian, journal anglais, estime que plusieurs milliers de personnes sont décédées sur les chantiers du Mondial.
Nous continuons à dire que ces chiffres sont faux. Nous ne les acceptons pas.
Nasser Al-Khater est le président du comité d'organisation.
En toute confiance, je peux vous dire que seulement 3 travailleurs sont morts sur les chantiers des stades.
Dans sa communication, le Qatar met aussi en avant la possibilité de passer rapidement d'un stade à l'autre durant la compétition. Le pays est petit, rien ne sera loin de Doha. Grâce notamment à un métro flambant neuf, moderne, les fans pourront même assister à plusieurs matchs dans la même journée, dans le mondial le plus discuté de l'histoire du football moderne. Hugo Moissonnier, Doha, RFI.
On quitte notre guide au Qatar, on débute notre tour d'Europe des terrains en Italie avec Matteo Cioffi. Ciao Matteo.
Bonsoir Martin.
Alors du lourd, rien que du lourd ce soir chez vous, à commencer par Naples, Atalanta, Bergame, ça vient tout juste de se terminer.
Oui, duel palpitant et passionnant et on s'y attendait. 5 minutes de jeu et l'Atalanta mène un but à 0 grâce à une frappe en pleine lucarne de Malinowski. Napoli assommé jusqu'à la 40e minute où il se ressaisit, égalise avec Zielinski. Deuxième mi-temps, le rythme reste frénétique. Les Napolitains trouvent la voie défoulée avec un but en contre du Belge Mertens. Et à partir de là, l'ADA se déchaîne. Et en 3 minutes, on verse le score. D'abord avec le défenseur Demiral et après avec le milieu de terrain Freuler. À ce moment, il reste à jouer 20 minutes. Assaut du Napoli, mais l'Atalanta défend son avantage jusqu'au triple sifflet final. Score final, 3-2 pour les Lombards. Napoli glisse à la 3e place derrière les 2 équipes milanaises. Le club de Bergame, de sa part, reste en course pour le titre. 4e avec seulement 4 points moins sur l'AC Milan qui ce soir est le premier de la classe.
Voilà, l'Atalanta renversante avant le choc. Il y a eu 2 autres chocs, vous le disiez. Le Milan AC qui s'est imposé 2-0 dans le choc des extrêmes. Premier contre dernier face à la Salernita. Mais surtout, l'Inter a carton face à la Roma de José Mourinho. José Mourinho, un ancien grand amour de l'Inter de Milan.
Oui, en effet, donc Rome-Inter, c'était un défi sous le signe de José Mourinho, mais à faire la une a été aussi Francesco Totti, qui aujourd'hui, pour la première fois dans cette saison, a fait son retour dans les tribunes de l'Olympico. Et en quelques secondes, il a enflammé le stade où les tifosi de la Louve l'aiment encore plus que tout. Venant au match, l'Inter a infligé une lourde défaite aux Romains. Le 11 de Simone Inzaghi a tout de suite pris les rênes de la rencontre. Contrôle du ballon total, rapidité et technique sont les atouts des Milanais qui ont réglé l'affaire en première mi-temps. Score ouvert après un quart d'heure directement sur corner frappé par le Turc Hakan Çalhanoğlu. Ensuite, une dizaine de minutes plus tard, l'ex-avant-centre Giallorosso Edwin Dzeko, très sifflé par ses anciens supporters, a inscrit le 2-0 et triste finale signée par un coup de tête du néerlandais Denzel Dumfries. L'Inter reste accroché au sommet, deuxième place à une seule longueur du Milan AC.
Eh bien, merci beaucoup, grazie mille, Matteo Cioffi, pour ce point complet sur le championnat italien. On n'oublie pas le championnat allemand et la victoire. Un autre choc ce soir, un classiqueur, le Bayern Munich qui s'impose face au Borussia Dortmund 3-2 avec un doublé de Robert Lewandowski et malgré un but d'Erling Haaland du côté du Borussia, les Bavarois qui ont 4 points d'avance sur le BVB. Dans tête de ce championnat en Espagne, à présent, pas de ballon d'or, une première depuis 12 ans, mais un garçon en or, notre correspondant Pierre Chaperon. Bonsoir Pierre.
Voilà, qué tal Martin.
Ah bah, qué tal muy bien. On commence par du Royal, Real, Sociedad face à Madrid, le troisième chez le leader, mais un choc un peu timide pendant un moment, même si le Real s'est bien repris, et une blessure aussi d'un joueur majeur.
Oui, exactement. 2-0, 86 minutes de jeu du côté de Anoeta au Pays Basque. Le Real, c'est totalement logique, hein, qui mène 2-0 avec un but à la 47e minute de jeu signé Vinicius, hein, 1-2 dans la surface de réparation avec Jovic, le Brésilien qui marque son 10e but de la saison en Liga. Et puis Jovic à la 56e sur corner tiré par Kroos. Casemiro remet sur Jovic. Qui va chercher de la tête devant le gardien, un vrai renard des surfaces, un peu Pipo Inzaghi. Et puis donc c'est son premier but de la saison pour le Serbe, le Real qui mène logiquement, mais qui, vous le disiez, a vu cette très mauvaise nouvelle, la blessure de Benzema, problème aux ischios de la jambe gauche pour le Français. Alors je ne suis pas médecin, je n'ai pas prêté le serment d'Hippocrate, mais généralement, c'est 2 à 3 semaines d'arrêt, les ischios, et c'est une très mauvaise nouvelle avant l'Inter mardi en Ligue des Champions, et surtout le derby la semaine prochaine. Si le score en reste là, le Real aurait 8 points d'avance sur son dauphin Séville, 9 points sur le Betis 3e, 10 points sur l'Atlético et la Real Sociedad, et surtout 16 points sur le Barça.
Vous n'êtes pas médecin, mais vous savez compter. Un mot rapide sur la Real Sociedad, Pierre, qui avait très bien commencé ce championnat avant cette défaite qui se profile aujourd'hui.
Oui, plus de victoires depuis le 7 novembre. Moi, je les classais vraiment dans les outsiders cette saison parce qu'ils ont un super effectif, un mélange entre des jeunes du centre de formation. Je pense à Mikel Oyarzabal qui a été vraiment absent ce soir, qui était titulaire, mais totalement absent. Il y a Ander Berenechea, qui a bientôt 20 ans, qui a fait une rentrée, très intéressante ce soir. Il y a aussi des anciens, comme David Silva, qui est blessé, ou des joueurs que moi je dirais que c'est des tripoteurs de ballon, comme Portou ou Merino. Et puis il y a ce défenseur français, dont on ne comprend pas pourquoi il n'est pas encore en équipe de France, et qui a été élu meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue. Il s'appelle Robin le Normand, le tout entraîné par Imanol Alguacil, qui insiste beaucoup sur le jeu collectif, beaucoup sur se battre sur tous les ballons. C'est une vraie personnalité du championnat, ce type-là. Mais bon, ce soir, ça ne réussit pas et ça fait toujours 2-0. On rentre dans le temps additionnel.
Et pour terminer, Pierre, un petit mot, comment ne pas en parler, la première défaite de Xavi sur le banc du Barça, 1-0 face au Betis Séville.
Oui, ici, on est inquiet en Espagne. On se pose beaucoup de questions sur notamment le manque d'agressivité, le manque de vitesse dans le jeu, des critiques qui datent depuis très longtemps en Catalogne. Alors, Xavi a beau défendre ses joueurs, le constat est là. Le Barça ne s'est pas du tout bien préparé pour le match crucial de mercredi où il se déplace à Munich avec la victoire impérative. On ne voit pas comment ce soir en Espagne les Blaugrana peuvent espérer quoi que ce soit en milieu de semaine. Barcelone qui est très loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions en ce moment.
Eh bien, merci beaucoup docteur Chaperon pour ce diagnostic. L'Atlético de son côté a perdu 2-1 chez lui contre Mallorca et Séville a emporté 1-0 contre Villarreal. On termine par la France, le Paris Saint-Germain, un PSG qui a gagné un grand titre cette semaine, un ballon d'or grâce à l'Argentin Lionel Messi, 7e du nom, 7 boules de cristal, inutile pour battre Nice cette semaine, 0-0. Loin de l'âge d'or rêvé des Parisiens, mais briller de 1000 feux chez les sang et or, c'était l'objectif. À Lens, ce soir, un match qu'a suivi pour nous Cédric de Oliveira. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Martin.
Alors on approche de la fin du match et ça se passe pas très bien encore une fois pour les Parisiens.
Ouais, il reste quelques instants pour le PSG. PSG qui était privé de Kylian Mbappé au coup d'envoi et qui a été bousculé comme face à Nice mercredi lors du match nul 0-0 entre les deux équipes, vous en parliez. Le PSG qui a encore été décevant au stade Félix Bollaert, notamment pendant les 45 premières minutes puisqu'il y avait 0-0 à la pause avant le coup de canon de l'omniprésent Seko Fofana à l'heure de jeu. Sur une frappe de 30 mètres de l'Ivoirien, eh bien, le gardien du PSG. Alors que là, à l'instant, eh bien, le Paris Saint-Germain égalise le PSG qui était mené 1-0. Et c'est Wijnaldum, le néerlandais, Jorginho Wijnaldum, qui égalise sur visiblement une passe de Kylian Mbappé. Donc un partout, Martin, le PSG qui vraiment s'en sort bien puisque Seko Fofana avait ouvert le score, je vous le disais, avec une faute de main de Keylor Navas. Derrière, Lens a eu des contres énormes à jouer, effectivement. Donc, centre de Kylian Mbappé et Wijnaldum qui s'est faufilé entre toute la défense là pour placer un coup de tête vraiment juste au centre du but. Jean-Louis Leca, le gardien lensois, n'a rien pu faire. Ça fait donc un partout pour le Paris Saint-Germain qui va sans doute décrocher un point du nul à Bollaert. Et c'est très bien payé, Martin.
Eh ben, on a bien fait de vous prendre en direct. Merci beaucoup, Cédric de Oliveira. Paris toujours leader dans cette soirée devant Marseille, pourtant surpris et battu 2-1 à domicile par Brest. Lille enchaîne, deuxième victoire de suite après Rennes. Succès contre 3, 2 buts 1, là aussi.
Je suis technique et carré. Un seul coup de pointe à une carie. On est venu descendre des carrières et faire mieux que ce qu'ils ont fait hier. La meilleure défense reste l'attaque.
Nous voilà à Abidjan, temple africain du taekwondo où Ruth Bagby a ramené un deuxième titre de championne du monde. Deux fois en bronze aux Jeux Olympiques, elle s'est cette fois-ci parée d'or aux Mondiaux à Riyad en Arabie Saoudite. De quoi la placer au panthéon des athlètes ivoiriens. Reportage ambiancé à la descente de l'avion avec Yuen Gourlet.
Ruth Bagby débarque au palais du taekwondo d'Abidjan sur un pas de danse au son des chants, des maracas et des vuvuzelas des supporters venus l'accueillir. Médaille d'or autour du cou et drapeau ivoirien sur le dos, la taekwondoïste savoure son deuxième titre de championne du monde des moins de 67 kilos.
J'ai combattu avec mon expérience, mon calme, mes techniques et voilà, je cherchais juste la victoire, donc j'ai juste travaillé stratégique. Ça fait toujours plaisir de savoir que voilà, j'ai pu battre tout le monde et je suis à la première marche du podium.
Victorieuse 11-5 en finale face à la Française Magdaviette Hénin, l'Ivoirienne ajoute une nouvelle médaille à sa riche collection. Quintuple championne d'Afrique, double championne du monde et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et de Tokyo cet été, l'athlète a aujourd'hui l'un des plus beaux palmarès du sport ivoirien.
Je continue d'avoir la tête sur les épaules. Je sais que je peux faire, je vais dire mieux, je peux faire plus. Gagner une médaille d'or olympique, gagner encore plus de titres mondiaux, les grands prix, voilà, être première partout en fait.
Et ce qui impressionne, c'est sa régularité à chaque compétition. Pas vraiment une surprise pour son entraîneur Adama Sherif.
Elle est très attentive, elle a confiance en elle et puis elle bosse. Ouais, c'est une bosseuse. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'elle avance.
Un état d'esprit, selon son coach, hérité de l'enseignement et des valeurs du sport sud-coréen exporté en Côte d'Ivoire dans les années 60.
L'Asie et l'Afrique ont un trait de caractère très commun. C'est justement ça, s'appuyer sur la sagesse des aînés, des parents. Donc je pense que c'est ce qui fait sa force aussi.
Des performances et un comportement qui rendent fiers ses fans, comme Denise, supportrice de la première heure.
Elle n'a pas peur, elle fonce. Et en tout cas, elle est très ambitieuse, elle est optimiste, elle veut gagner. Et puis bon, c'est une battante quoi. C'est un modèle, vraiment.
De plus en plus populaire sur les réseaux sociaux et chez la jeunesse ivoirienne, Ruth Bagby a même eu le droit à sa petite chanson signée Oprah.
Quand Bagby, je suis technique et carré. Un seul coup de pointe à une carie.
La nouvelle pépite du rap ivoirien. La reine des tatamis devra défendre son titre dans quelques mois seulement, puisque les prochains championnats du monde auront lieu en Chine en mai prochain.
La meilleure défense reste l'attaque, elle fracture le crâne, je l'attaque. Ruth Bagby au sommet.
Yuen Gourlet, Abidjan, RFI.
On termine par du handball, c'est le mondial dans Mondial Sport, direction l'Espagne pour retrouver les championnes olympiques françaises, cette fois-ci à la conquête du monde et pour retrouver Christophe Diremzian. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Martin.
Alors les Bleus, l'équipe de France a finalement remporté son premier match 30-20 face à l'Angola. Un score assez large face aux championnes d'Afrique, mais l'entame a tout de même été assez laborieuse.
Oh que oui, 20 minutes en carburation diesel hein, contre des Angolaises parties pied au plancher et qui trouvent assez facilement des solutions dans la défense adverse. En face, des tricolores qui peinent à régler la mire en attaque. C'est brouillon, mais ça finit par s'arranger à la pause. Les championnes d'Afrique baisseront définitivement les bras dans le dernier quart d'heure. Plus 10 à l'arrivée, ça fait 6 ans que les Bleus n'avaient pas gagné leur match inaugural d'une compétition internationale avec un tel écart. Ça change des faux départs lors des mondiaux 2017 et 2019. Et pour la confiance, c'est tout bénéfice. Car mine de rien, l'Angola, présente aux Jeux de Tokyo, mais sans passer le premier tour, n'avait rien d'un simple sparring partner, rappelle l'arrière Estelle Dzeminko.
Clairement, je pense qu'on joue la meilleure équipe hors Europe. Je me dis que dans ce mondial, on n'est pas chanceux de prendre l'Angola au premier tour. C'est une équipe qui gagne la CAN régulièrement, qui a déjà détrôné des grosses équipes européennes sur des grandes compétitions mondiales, JO. Donc franchement, hyper contente de cette rentrée en lice. On a mis du temps avant de creuser l'écart, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Angola, c'est une équipe qui se plie en 15 minutes de jeu? Non. Donc franchement, contente de ce résultat.
Estelle Dzeminko, pas très efficace hier. Un seul tir tenté et même pas réussi. Les arrières se sont d'ailleurs fait un petit peu tirer l'oreille par le sélectionneur Olivier Krumbholz pour leur manque de réussite à vite corriger.
Alors on ne lui a pas tiré les oreilles, on lui a plutôt dressé des lauriers. Coup de chapeau, coup de projecteur de toute l'équipe, de tout le monde d'ailleurs. À une nouvelle gardienne qu'on découvre, Laura Glauser.
Oui, sacré numéro de la portière de Győr en Hongrie. 16 arrêts, quasiment 1 sur 2 tirs angolais. Et beaucoup sur les tentatives à l'aile. Elle a disputé tout le match, ce qui est d'ailleurs assez rare hein, pour une gardienne. Et elle n'a pas boudé son plaisir pour elle qui est en bleu quand même depuis 2012. Mais qu'Olivier Krumbholz n'avait pas emmené aux Jeux de Tokyo, faute de jouer en club où son entraîneur ne lui faisait pas confiance. Sa prestation d'hier a enthousiasmé ses coéquipières, à commencer par la capitaine Coralie Lasource.
Quand des situations était clair pour les adversaires, elle a dit c'est mort, ça rentrera pas. Du coup, ça nous a aussi fait du bien, ça nous a aussi permis de se propulser vers l'avant et de marquer des buts un peu plus faciles. Quand on voit que notre gardienne elle est à fond, on se donne encore plus à fond pour déjà l'aider parce qu'elle est toute seule dans les cages. Et ça fait du bien aussi de pouvoir revoir Laura comme ça. Enfin voilà, ça faisait longtemps et ça fait vraiment très plaisir.
Et on aura aussi noté l'entrée en lice encourageante des deux jeunes ailières droites qui participent à leur première compétition internationale, Alicia Toublanc et Lucie Granier. 7 sur 8, elles deux tout de même.
Alors voilà, une entrée en matière façon diesel. Il faudra faire chauffer le moteur demain pour le deuxième match des Françaises. Elles affrontent la Slovénie, des Slovènes qui ont démarré ce mondial sur les chapeaux de roue, elles aussi.
Ah oui, effectivement, elles n'ont pas fait dans le détail hier face au Monténégro, 28 à 18. Même si les Monténégrines privées, qui plus est, d'une de leurs joueuses clés, l'arrière-gauche Georgina Jokovic, ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient, les Slovènes ont impressionné moins avec leurs arrières, il est vrai déjà connu, Anna Gross, notamment l'ancienne du championnat de France, qu'avec leur gardienne Amra Pandzic, sorte d'alter ego slovène de Laura Glauser, avec ses 14 arrêts. La Slovénie a posé des problèmes aux Françaises par le passé, c'est elle qui les avait fait chuter lors du match d'ouverture du Mondial 2017. Par exemple, les tricolores ont repris le dessus l'an dernier à l'Euro, mais Olivier Krumbholz tient toujours cet adversaire en haute estime.
C'est une belle équipe, ça joue bien au handball, la Slovénie, ça nous avertit et il va falloir qu'on tire mieux que ce qu'on a fait contre Angola. On a eu encore beaucoup trop d'échecs dans des situations favorables. Donc il faut enfoncer le clou quand on domine et marquer des buts quand on est bien placé. On est averti, mais on le savait, on connaît les joueuses. C'est des joueuses du contexte international archi connues. Certaines ont joué en France et on sait qu'elles sont très bonnes.
D'où l'importance d'avoir encore une bonne défense. Reste toutefois à lever une petite incertitude à propos d'une des taulières de ce secteur, la pivot Beatrice Edwige, qui a pris une béquille hier et finit le match avec un bandage autour de la cuisse. France-Slovénie, en tout cas, rendez-vous demain sur RFI à partir de 17h, temps universel à Granollers.
À Granollers, on vous retrouvera demain soir dans Mondial Sport. Christophe Diremzo, vous nous parlerez des Congolaises du Congo-Brazzaville et de la Tunisie. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Voilà, c'est terminé. Bonne nuit sur RFI. À demain dans Mondial Sport. Ce mardi, vivez sur